Ben, salut tout le monde! Approchez! Si vous voulez voir Nicolas, il y a le même. Bon, bienvenue, mon nom c'est Véronique, je suis dans le collectif de la Page Noire, ainsi que plusieurs autres personnes qui sont ici. Ce soir, c'est le collectif de la librairie de la Page Noire, dans le fond où vous êtes, et le collectif Anarchiste la Nuit qui vous ont invité à ce 5 à 7. La Page Noire, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le lieu, c'est une librairie anarchiste, autogérée, donc où vous pouvez trouver toutes sortes de livres à acheter ou à emprunter dans la bibliothèque. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. Pour plus de 10$, vous avez le droit d'emprunter tous les livres que vous voulez dans la bibliothèque. Et les ouvertures sont sur la porte si vous avez le goût de changer avec nous. Ce soir, le 5 à 7, on essaie de faire à chaque mois ou deux mois des 5 à 7. Des fois, des 5 à 7 thématiques, des fois seulement des événements qui sont 5 à 7 de type social. Ce soir, on avait envie d'entendre parler de services publics parce que c'est pas mal d'actualité. Justement, le dernier numéro de Compte commune, le journal du collectif Anarchiste la Nuit, en fait, et plutôt de l'Union des communistes libertaires, porte sur ce sujet-là. Donc, non seulement on va souligner le lancement du numéro que vous allez tout le monde pouvoir vous procurer gratuitement, mais on a invité le collectif à nous faire une présentation sur le sujet, puisqu'ils sont en train de faire une réflexion justement sur les services publics dans une société libertaire. Donc, c'est Nicolas du collectif qui va faire tout ça et qui va animer la discussion après. Donc, je vais
t'accompagner.
J'ai oublié de souligner qu'il y a de la bouffe qui était faite par Geneviève. Merci Geneviève. Donc, avec Thomas et plein d'autres membres, je ne savais pas. Fait qu'il y a Jeanne et pas si vous avez fait.
Oui, donc, c'est ça, le journal, il est là, si vous voulez. En fait, c'est pas le numéro spécial sur les services publics, ça se donne qu'il y a deux textes dedans. En fait, il y a trois textes qui traitent grosso modo de ça, mais c'est parce que, bon, il a été préparé, notamment avec en tête qu'on allait en passer 2-3 000 copies le 12 mars, donc on s'est dit que ça aurait du sens de faire ça là-dessus. Mais il y a un numéro, effectivement, qui a porté essentiellement sur le budget où les réflexions sur les services publics sont plus élaborées, puis il doit en rester des copies là, sinon il y en a sur notre site. Donc, le service public, effectivement, c'est très d'actualité en ce moment, et c'est d'actualité depuis... On va entendre dans le fond.
Si vous êtes comme Mathieu et que vous n'avez pas pu vous procurer une bière, c'est le moment ultime où le faire.
C'est le moment idéal.
Je m'excuse.
Après, ça va l'air mal poli, puis comme on le sait, les anarchistes et la politesse, c'est très important dans notre unité théorique et tactique, c'est central.
Désolé,
il n'y a pas de problème. Donc, les services publics, c'est d'actualité parce que il y a des attaques frontales sur les services publics et sur toute la solidarité sociale au Québec. Depuis 2 ans dans le budget, des nouvelles attaques parce que depuis une vingtaine d'années, il y a des attaques aux services publics. Et il y a des luttes en fait qui se développent sur toute la question de la tarification, de la privatisation, des hausses de frais et tout. Et puis, comme on est très impliqué dans ces luttes-là, on s'est dit que, bon, comme collectif anarchiste, qu'est-ce qu'on pouvait amener? On pourrait peut-être amener une réflexion sur les services publics parce que les services publics, ben, c'est pas sans contradiction. C'est-à-dire que l'expérience qu'on a tous et toutes avec l'État n'est pas strictement positive. C'est vrai comme ça. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'un service public? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer sur cette joyeuse question? Première question, c'est quoi un service public? De quoi on parle?
D'accord. On sait
ta
réponse.
Oui, mais c'est pas grave, parce que c'est plus le fun si on le fait ensemble. Parce que sinon, je vais juste faire un cours de magistral.
Je dirais quelque chose qui est pour tout le monde.
Quelque chose qui est pour tout le monde.
Moi, je dirais quelque chose, par contre, qui est de l'État. Parce que d'habitude, le public, c'est pas le communautaire, par exemple.
panier de caritatif.
Donc, une chose, un service.
Un service offert par l'État.
Offert par l'État. OK. Effectivement, ça rentre là-dedans. C'est un service, c'est une activité, en fait, qui est, d'après, si on se fie à la définition qui est sortie par la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics, effectivement, eux, ils disent qu'un service public, c'est une activité qui est exercée ou contrôlée par l'État, mais c'est pas n'importe quel type d'activité. C'est une activité dont le but est de satisfaire un besoin d'intérêt général, effectivement, donc qui profite à tout le monde. Ça, c'est le premier bout. On pourrait avoir une définition un peu plus large en parlant d'administration publique plutôt que d'État, parce que ce n'est pas nécessairement l'État, ça peut être des sociétés d'État, et il faudrait voir s'il n'y a pas lieu de faire une distinction entre programmes sociaux, services publics, et dans les services publics, entre les services d'utilité générale et les trucs qui sont plus de l'ordre des sociétés d'État, comme par exemple, et qui impliquent donc un rapport marchand, comme par exemple Hydro-Québec. Donc, ça, c'est un service public. Là où on arrive sur les services publics, on dit aussi, du côté de la coalition, que plusieurs services publics sont en lien, en fait, avec la réalisation de droits humains. Et il assure, en fait, un accès à tout le monde à ces droits-là. Et ça contribue à la solidarité et à la cohésion sociale. Et c'est là qu'on frappe le premier nœud, la première contradiction des services publics. Et en fait, c'est la contradiction fondamentale, c'est que les services publics, comme ils sont structurés dans la société, sont à la fois de l'ordre de la conquête sociale, c'est quelque chose qui est imposé par les luttes, qui n'est pas nécessairement de soi, et qui effectivement garantit un droit, mais c'est aussi un instrument de contrôle social et de régulation dans la société capitaliste, qui permet en fait d'intégrer les gens. Et donc, les services publics, dans les sociétés capitalistes avancées, sont utiles autant à nous, au peuple en général, qu'à l'élite. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, la question de l'éducation ou la question de la santé, qui sont en fait les deux principaux services publics offerts, gérés par l'État québécois, ben c'est sûr que c'est de l'intérêt général d'avoir accès à l'éducation, c'est sûr que c'est de l'intérêt général d'avoir accès à un système de santé gratuit, mais c'est aussi de l'intérêt de l'élite qu'il y ait des gens qui sont minimalement formés pour faire œuvre de main-d'œuvre et donc pour travailler et qu'il y ait des gens qui soient minimalement en santé, qu'il y ait des conditions de salubrité minimale. Donc, ça sert aux deux. C'est la contradiction. C'est ce qui fait que plusieurs anarchistes, plusieurs radicaux vont prendre une tangente de dire les services publics, c'est l'État, c'est du contrôle social, c'est de la merde. Ça vaut pas la peine de les défendre. Et pour la même raison, mais à l'inverse, il y a plusieurs réformistes qui vont strictement défendre le statu quo sur les services publics parce que, bon, ça permet de rendre des services. Donc, actuellement, les services publics sont attaqués. S'ils profitent autant à l'élite qu'au peuple, on va se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils sont attaqués? Là, je sens que vous n'avez pas envie de répondre.
Bon.
Pourquoi sont attaqués les services publics? Pourquoi est-ce que les bourgeois attaquent les services
publics? Une autre élite, peut-être, que tu n'as pas spécifié dans ton discours?
Parce que ça profite...
Une deuxième strate d'élite qu'on ne voit pas.
Ça peut être ça. Tu peux passer, en fait.
Parce que c'est gratuit.
C'est pour ça que tu attaques. Parce que c'est gratuit. Oui, il y a ça en partie. En fait, si on reprend des terminologies un peu vieilles et un peu à faire peur, mais on va les reprendre pour le fun. Le camarade ici dirait que c'est à cause de la baisse tendancielle du taux de profit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Concrètement, là, c'est que dans la société dans laquelle on vit, c'est pas suffisant de faire de l'argent, il faut en faire toujours plus. Et actuellement, dans le cadre de la mondialisation, on fait pas toujours plus d'argent. En fait, en ce moment, on a tendance à en faire un petit peu moins à chaque fois, à un point tel où, par exemple, si vous lisez les grands journaux, en ce moment, ils commencent... En fait, ils sont presque à la fin de nous en parler, là, mais ils nous ont parlé beaucoup de retraite puis de REER. Dans les deux derniers mois, à cause que c'était le temps de cotiser. Et là, tout d'un coup, ils ont fait une découverte fondamentale, c'est-à-dire que le boomer, quand il cotisait à son régime de retraite, quand il cotisait à son REER, il devait cotiser à peu près 4% de son revenu pour s'assurer une retraite relativement confortable, arrivant à 70%. Parce que la bourse, ça marchait bien, puis parce qu'il y avait possibilité de faire de l'argent avec les REER. Puis là, ben là, il semble, là, d'après les dernières analyses des actuaires, puis des économistes, puis de tout ce beau monde-là, que quelqu'un qui a 25 ans aujourd'hui, puis qui voudrait profiter du même taux de retraite, il faudrait qu'il mette 30% de son salaire, pour 40% de son salaire en épargne pour pouvoir retirer 60% de son salaire à la retraite. Donc, c'est dire donc que la bourse actuellement a tendance à rouler un peu moins fort que dans les années 70-80. Et donc, le capital est toujours à la recherche de nouveaux marchés. Il y a une dizaine d'années, on a beaucoup parlé de mondialisation. Il y avait le sommet des Amériques, la SLEA, avant ça, il y avait l'ANI. On en parle un petit peu moins parce qu'on a des attaques nationales, fait que c'est moins à la mode. Mais dans le cadre de la mondialisation, en fait, il y a deux principales places parce qu'on ne fait pas de fric actuellement, parce qu'on pourrait faire du fric et qui sont attaqués directement. T'as, d'un côté, le vivant directement, la marchandisation du vivant avec bon, les OGM et compagnie. Et de l'autre côté, tu as les services publics qui sont transformés en marché public si on lit notamment les accords européens. Donc, ils sont dans la mire pour pouvoir mettre la main dessus pour faire du fric avec. Donc, l'idée, c'est pas tant de les détruire que de trouver une manière de faire de l'argent avec. Ce serait une manière intéressante. Et effectivement, à part quelques idéologues libertariens ou d'extrême droite, il n'y a personne qui propose, qui veut réellement abolir les services publics ou complètement les privatiser. C'est pas ça. Parce que ben, d'un côté, c'est intéressant pour la compétitivité économique du Canada d'avoir des services publics. Mais essentiellement, en fait, l'enjeu réel, c'est pas tant leur abolition ou de les privatiser complètement. L'enjeu, en fait, c'est de nous faire passer l'ensemble des coûts aux utilisateurs et de pouvoir faire un maximum de fric avec. Et d'ailleurs, c'est très idéologique et on arrive à des situations cocasses. Parce que par idéologie, on pense qu'on va pouvoir faire du fric avec ça. Et on cherche des manières à ce que nos capitalistes locaux puissent faire du fric avec ça. Si on prend par exemple le cas du CHUM à Montréal, où on a voulu faire la construction en PPP, en partenariat public-privé, puis qu'il y ait des firmes qui fassent de l'argent avec ça. Là, ça prenait des firmes capitalistes au rang assez solide. L'État québécois, les libéraux, ils se disaient, les firmes d'ingénierie québécoise, ils vont faire du fric avec ça, puis ça va être bon pour leur place, leur compétitivité internationale, puis après ça, ils vont pouvoir bider en Angleterre, en France, sur des PPP et tout. Et c'est en le mettant en PPP qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas une firme québécoise qui avait les reins assez solides pour faire ça. Et ça explique entre autres le retard dans la construction du CHUM, parce que là, ils se sont rendus qu'il y a juste des multinationales qui sont capables de le faire. Ils sont capables, qui ont assez de capitaux pour dire oui, on est prêt à prendre le risque et oui, on est prêt à le faire. Donc des fois, l'idéologie se heurte à la réalité. Et donc, c'est ça. Donc, l'enjeu de la bataille, c'est de nous transférer l'ensemble des coûts, en fait, de faire payer les gens deux fois et de vendre des services lucratifs pour le milieu des affaires. Puis ben là, après ça, c'est de voir quel milieu des affaires, quelle élite. Donc, le Parti libéral du Québec aurait peut-être aimé que ce soit ses contributeurs, mais il y a des fois où est-ce que finalement, même ses contributeurs n'ont pas les reins assez solides pour le faire. Donc c'est ça. C'est le portrait général très, très, très brièvement. On peut se demander dans ce contexte-là quel est l'intérêt pour les libertaires, quel est l'intérêt pour les radicaux de s'intéresser à ça. Puisque, bon, on parle dans le fond, on parle de l'État, on parle du grand capital et tout. Donc, nous, quel intérêt on a là-dedans? En quoi c'est intéressant dans une perspective radicale? Ben, d'une part, en gros, c'est le même intérêt pour tout le monde. C'est-à-dire que les services publics dans nos sociétés, ils font partie du salaire social. C'est-à-dire que ça fait partie, en fait, c'est des éléments de redistribution de la richesse et de justice sociale. Et c'est des choses que, comme ils sont accessibles à relativement bas prix, ben ça coûte beaucoup moins cher que si on devait le faire individuellement. Donc, ça participe directement de notre niveau de vie. Donc, il y a ça. Mais il faut voir qu'effectivement, c'est un enjeu contradictoire. Si on s'arrête juste à ça, le risque est grand de finir comme dans Chomsky ou Normand Baillargeon et de dire que l'État, c'est une prison, mais que c'est le fun que ce soit une prison parce qu'en dehors des barreaux, il y a des fauves, puis que si on abolit la prison, ben, on va se faire bouffer tout rond. Donc, Et donc de terminer dans une perspective strictement réformiste et de finir par appeler à voter pour Québec seulement. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce contexte-là? Ben, nous, on pense que pour rendre ça vraiment intéressant, puis pour que ce soit utile, puis pour que ça progresse, les luttes sur les services publics, ben, il faut trouver une manière de subvertir le service public. De subvertir dans le bon sens, parce que les capitalistes aussi subvertissent le service public, mais ils travestissent, disons. Et donc, il faut pouvoir les défendre, mais aussi aller plus loin que le statu quo et faire une critique du service public tel qu'il se présente. Une critique de... Donc, c'est ça. Puis, pour nous, il semble qu'il y a deux affaires, deux éléments de rupture qui semblent intéressants dans le service public et qui peuvent permettre de rompre avec la logique en jeu. Et dans la contradiction des services publics, c'est quelque chose qui nous semble important puis qu'on peut sur lequel on peut appuyer pour peut-être faire des avancées. Donc, la première, c'est la question de l'autonomie puis de la gestion des services publics. Actuellement, c'est l'État qui contrôle et qui gère les services publics. Il fait des fois en délégation, mais dans les faits, il contrôle et gère. Et de plus en plus, il resserre le contrôle et la gestion des services publics. Même si nominalement il y a des administrations indépendantes, les cahiers de charges sont de plus en plus importants et c'est de plus en plus difficile de sortir de ce qui est prévu au national par l'État. Donc, il y a ça. Puis en plus, actuellement, peu importe le secteur, l'État libéral a tendance à vouloir réduire la participation des secteurs populaires, en fait des secteurs qui ne sont pas du milieu des affaires dans la gestion des services publics. Ils veulent réduire le nombre de représentants des salariés, le nombre de représentants des usagers sur les conseils d'administration pour les remplacer par soit des représentants du milieu, soit directement des représentants du milieu des affaires. Et donc un maximum d'amis du privé, ou carrément remplacer les conseils d'administration et déléguer la gestion au complet d'un service public au secteur privé, donc en partenariat public-privé. Puis, ben c'est ça, on peut le voir en éducation, en santé, entre autres. Là. Et une des choses sur la question de l'autonomie qui nous semble intéressante puis qui ressort de plus en plus, c'est que non seulement il y a une question de sous-financement, il n'y a pas assez de fric pour faire ce qu'il y a à faire, il y a un sous-financement qui est planifié pour détériorer le service public, pour que ce soit tellement merdique qu'on finisse par dire « mieux vaut le donner au privé », qui va être tellement mieux que le public pour le faire. Donc, il y a un problème de sous-financement, mais il y a aussi de plus en plus un problème de mauvais financement et de mauvaise gestion du service public. On se retrouve, on peut penser à l'Élo Voyageur ou au CHUM, ou on peut penser dans les cégeps de plus en plus. Le budget de publicité, par exemple, prend des proportions hallucinantes, alors que ça n'a rien à voir avec la mission fondamentale. Et donc, nous, on pense que pour renverser la vapeur, une des choses qu'on peut faire, c'est revendiquer l'autonomie des services publics et leur autogestion. Donc ça peut être intéressant. D'autant plus que dans la majorité des cas, les salariés sont organisés. Dans la majorité des cas, les usagers le sont aussi. Et donc, il y aurait possibilité de faire des points intéressants à ce niveau-là. L'autre enjeu qui est très important, c'est de plus en plus une marchandisation, une logique marchande qui s'introduit dans le service public, entre autres par le biais de la tarification. Donc, c'est tout l'enjeu de la gratuité et de l'universalité des services, donc qui nous semble intéressant. Parce que, actuellement, là, comment qu'on fonctionne, on veut nous faire payer deux fois pour les services publics. On veut nous faire payer une première fois via l'impôt, les taxes et tout ce qui vient avec, et une deuxième fois via une tarification pour introduire une logique de marchandisation. Et donc, on organise la rareté. Pour casser ça, il y a une possibilité en revenant au niveau du principe d'universalité et de gratuité, donc des services qui soient accessibles à tout le monde sur l'ensemble du territoire, peu importe le revenu disponible. Et là, on peut se demander si ces revendications-là sont strictement réformistes. Nous, on aurait tendance à penser que non, parce que, en fait, pour nous, être révolutionnaire aujourd'hui, c'est d'être un, au cœur des luttes sociales, là où effectivement il y a conflit, où il y a conflictualité, mais c'est aussi d'essayer d'identifier les potentiels réels d'autonomie et de rupture pour des ruptures autogestionnaires. Là, ben, dans les textes qu'on a sortis, il y avait quelque chose qui nous avait apparu intéressant. Des camarades d'une organisation française, l'OCL, l'Organisation communiste libertaire, qui disait si on affirme que l'économie doit avoir pour objectif la création de biens et de services utiles à chaque individu et non d'engendrer des profits pour une minorité, c'est également démontrer que tout devrait être service public et dénoncer le caractère arbitraire de ce qui est actuellement défini comme tel. Donc si l'éducation c'est un service public, si la santé c'est un service public, si on étend les sphères à ce niveau-là, ben à ce moment-là, si un service public, c'est un service d'intérêt général qui est administré en dehors de la logique du marché, ben à ce moment-là, pourquoi est-ce que tout ce qui est d'intérêt général ne le serait pas? Donc c'est ouvrir une porte à ce niveau-là. Et puis pour finir, on a deux choix. Ben là, on parle des enjeux de lutte actuelle, puis on lance la discussion là-dessus. Ben là, on parle de service public dans une société libertaire. Puis on y va là-dessus. Juste vous dire, si vous voulez aller un peu plus loin dans la réflexion, nous autres, on avait produit un cahier de réflexion à l'interne pour notre propre réflexion qui est ici, qu'on peut laisser aller au cost, c'est-à-dire 2$. ça va éventuellement se ramasser en livre, là, mais pour l'instant, c'est ça. Quand ça va être en livre, il va être plus beau, il va avoir une page couverture couleur.
Il va avoir d'autres textes
de réflexion et d'autres choses, mais là pour l'instant il y a ça, si jamais ça vous intéresse. Donc la question c'est est-ce qu'on finit sur les enjeux de la lutte ou sur les services publics dans une société libertaire? Ça se bouche. On peut aussi juste finir sur la guerre.
Ben, peut-être que c'est intéressant de quand même parler, vous savez, je pense qu'il y a des camarades étudiants dans la salle, tout ça, de parler un peu de ce qui se passe. Il y a eu quoi, 6 occupations depuis lundi, tu sais, ça brasse un peu, ça peut être intéressant sur les gens qui vont venir, leur expérience, dans leur milieu par rapport à ça. Ah, ça perd.
Sois plus précis. Je sais pas qu'est-ce que tu veux savoir exactement au niveau de mon étudiant.
Ben, ça peut être intéressant de parler de qu'est-ce qui se passe un petit peu présentement, c'est quoi au niveau de la mobilisation dans les cégeps.
Ben, je te dirais que c'est beaucoup différent dans les cégeps parce que la mob dans tous les cégeps se fait pas nécessairement tous ensemble. Il n'y a pas nécessairement une bonne communication inter-cégepienne. Fait que c'est plus propre à chaque cégep. Moi, je suis à Limoilou. Présentement, l'assaut va pas tellement bien. Fait que c'est plus dur de faire de la mob, mais en même temps, nous, tu sais, il y a eu le sit-in tantôt au complexe G. Nous autres, on l'a su à 1h hier matin. Fait que dans la nuit, ça. Ouais, ça, tu sais, ça a pas fait beaucoup de monde, là. On était juste trop au sit-in. Fait que s'il y avait une meilleure communication. Ouais, c'est ça, 3 de Limoilou.
Moi, j'ai eu ton état sur la vie à Limoilou. On s'est fait dire, ben, il n'y a plus d'exec. Fait qu'on savait comment
pour vrai,
quoi faire, ouais. Puis qu'on a appelé Limoilou.
Ben, c'est sûr, il y a un manque de communication. Il faudrait plus revenir les assos, justement, pour la mob.
C'est ça qu'on tentait, entre guillemets, de faire aujourd'hui. Dans le fond, il y avait du monde de Limoilou. On était beaucoup, beaucoup de Garneau, c'est ça. Un petit peu de Sainte-Foy. Il y avait des gens des Villozons aussi.
Il y en avait un.
Au niveau collégial, ce qu'on essaie de faire cet après-midi, c'est se réunir un petit peu là, au sein du complexe G dans le hall. Puis on avait ça un sit-in pacifiste. Dans le fond, on n'a pas fait grand-chose concrètement. On a essayé de. On a monté une tente pour essayer de se faire mettre dehors, puis ça n'a pas marché, je dirais. Mais sinon, on a essayé de monter au 20e étage pour aller voir.
Mais c'était même trop long.
En escalier, c'est long, 20e étage. Ça n'a pas été super constructif à ce niveau-là, mais je pense que, point de vue conférence de presse, on était deux à parler aux médias avec une quarantaine d'étudiants derrière nous qui scandaient des slogans, puis qui jouaient de la musique, donc ça a quand même. Ça a démontré un petit peu là, qu'on faisait quelque chose dans la région de Québec, qu'on commençait à la lutte. Mais
ben c'est le début aussi.
C'est le début.
Ouais, c'est le début. On vient d'avoir le budget. Fait que, veux pas, en étant concret, ben là, on pourrait peut-être plus s'unir. Il y a beaucoup de personnes impliquées pareil. C'est juste aller les chercher. Puis communiquer entre les cégeps pour qu'il y ait vraiment une bonne coordination. Que les événements soient fructueux. Je veux pas, là, si on parle de même, OK, manif à cette place-là, Tu sais, c'est pas sérieux. Fait qu'il faut juste vraiment que les personnes soient impliquées puis qu'on embarque.
Je pense que c'est une question qui a un rapport avec le mouvement étudiant puis la question qu'on vient d'aborder, c'est la question de la gratuité, tu sais. Par exemple, la FEUG FEC qui vont dire « Nous, on est contre les héros, on est pour le gel. » Puis quand j'avais demandé au huis clos là, pourquoi est-ce qu'ils sont pas pour la gratuité, ben tu sais, c'est parce que dans le fond, eux autres, ils considèrent que c'est plus pragmatique d'être pour le gel, parce qu'effectivement, le gel, ça a duré 30 ans, plutôt que d'être pour la gratuité. Pour eux, c'est quelque chose d'incroyablement utopique, t'sais. Fait que, il y a beaucoup de cégeps dans la région qui sont pas justement pour la gratuité, il y en a qui sont pour le gel, il y en a qui se demandent s'ils sont pas pour les hausses, là. C'est quand même une chose.
Il y en a qui sont pour les hausses. Ouais.
C'est juste.
Ouais, il y en a.
C'est quand même une bonne question, quand même. Tu sais, est-ce que la position du gel est plus pragmatique? Est-ce qu'on aurait plus de gains en faisant ça? C'est quand même une bonne question.
Ouais. Ben, moi, pour Limoilou, je peux dire que justement, vu que le comité exécutif il a roulé à une personne, dans le fond, un coordonnateur, pendant peut-être 2 mois, fait que on n'a pas encore toutes les statistiques, mais. Il y avait une journée qu'on voulait faire une grève, tu sais, quand il y a eu la manifestation. Oui, exactement. Nous, vu que c'était en fin de session, les étudiants, à 2012, ils ont voté oui, puis à 2200 ou 2300, ils ont voté non. Puis la majorité des réponses qui étaient pour le non, c'était parce qu'ils ne voulaient pas une journée de plus d'école. Fait que, tu sais, on s'entend que c'est vraiment stupide comme explication, puis d'autres que, je pars en voyage. Ouais, mais. T'sais, planifie ça par après. C'est quand même tout notre avenir qui est en jeu. Fait que justement, c'est pour ça que j'ai Almolou. Présentement, il manque de mobs. C'est pour ça là, on s'est recréé pour être plus fort. On est rendu 5, fait que ça va mieux.
Sur ce point-là, j'avais une réflexion là-dessus. En 2005, il y avait eu la grève générale illimitée. Puis elle avait été arrêtée en grande partie parce que les gens avaient peur de perdre leur session, de perdre leur avenir. La logique là-dedans, en fait, c'est que le gouvernement essaie de faire peur aux étudiants en leur disant « Vous allez perdre votre année, vous allez perdre votre session. » Mais mettez-vous dans le cadre d'un capitaliste qui cherche à avoir son cheap labor puis ses gens qui remplacent ses autres. Si vous perdez une année, lui, il n'y a pas d'employé à mettre à sa place. Donc, l'étudiant et sa session, c'est exactement l'arme que le gouvernement ne veut pas perdre. Puis c'est exactement ça qu'il faut quand même viser. Au sens, ouais, je vais perdre ma session, super, mais je n'irai pas travailler dans des entreprises. Je ne serai pas formé pour aller remplacer des infirmières, des médecins, des actuaires, des trucs machins, là, tout ce que vous voulez, là, des listes. Puis en fait.
Des artistes.
Ben, des artistes, là. Tu n'auras plus de tableau. Bon. Puis, en fait, des philosophes. Puis, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut. Essayer de montrer aux gens que, en effet, leur personne et leur formation, c'est leur arme principale. Puis, ce que le gouvernement essaie de faire à croire qu'ils vont t'enlever, ben en fait, c'est à eux qui se l'enlèvent en même temps. C'est une fausse. C'est un faux hold-up. Ils se mettent un gun sur la tempe. Ils se mettent un gun sur la tempe en disant si je tire, tu meurs avec moi, mais c'est pas vrai. Donc, c'est de dire ta journée perdue, elle sera pas perdue. Un gouvernement annulera pas ta session, c'est impossible. Il y a trop besoin de travailleurs. Vous pensez juste aux infirmières, comment ils font des campagnes de recrutement à mort. Comment ils se font déjà approcher dans leur première année de cégep alors qu'ils en ont 3 à faire pour aller travailler dans certains centres hospitaliers. Puis ils disent « Ah, mais t'auras pas ton bac, t'auras pas ton DEC ou t'auras pas ton bac. » Aucun sens, tu fais du recrutement, mais tu me laisseras pas sortir. C'est complètement contradictoire. Puis, peut-être de viser ça pour contrer tout de suite cette arme-là qui vont tout de suite présenter « tu vas perdre ta session, tu vas perdre tes examens, tu vas perdre ci, tu vas perdre ça », ce qui est tout à fait faux, ils ne peuvent pas le faire.
Mais non seulement ça, mais ils ne peuvent pas avoir deux cohortes en même temps.
Ouais.
Non, ça a l'air con, là, mais c'est vraiment ça. À la base, là, le fait d'avoir deux cohortes en même temps, c'est un méchant petit trouble. Puis les profs, ils peuvent pas les étirer à vitam aeternam, mais il y a un nombre maximum de temps là, sur la convention collective, sur combien ils peuvent récupérer de temps. Fait qu'ils jouent toujours là-dessus, là, sur cette question-là. C'est jamais arrivé, en fait. C'est peut-être arrivé à un cégep local une fois, historiquement, de perdre, de reprendre
une session.
C'est
à cause de la grève des profs.
C'est ça, c'était pas.
C'était pas un mouvement étudiant, c'était vraiment une de ces syndicales.
Oui, c'était syndical des enseignants, en fait, qui eux avaient réduit le nombre légal de jours. Sur la question, les enjeux de la lutte, il y a tout le mouvement étudiant, il y a d'autres choses aussi. Puis, dans les éléments qu'on voulait ramener, il y a toute la question de la stratégie, comment gagner face au gouvernement, ce qui est vraiment pas simple. Puis des fois, on n'est tellement pas habitué de gagner qu'on oublie en fait c'est quoi que ça prend pour. Et il y a juste une chose qui est vraiment basique sur la lutte, c'est à la base, les luttes sociales, là, si on exclut les luttes qui sont basées strictement sur un rapport de force économique, mais même là, c'est ça aussi. En fait, l'enjeu, c'est de s'organiser pour que ça coûte plus cher politiquement de maintenir une décision que de la retirer. Donc, c'est d'augmenter le rapport de force jusqu'à ce que ça devienne plus dérangeant. À ce moment-là, il n'y a pas nécessairement de bloquer complètement tout. C'est sûr que sur l'ensemble du budget, sur l'ensemble de la tarification, pour gagner, ça va prendre un mouvement social d'ampleur, sinon une grève sociale généralisée. À terme, si les Français n'ont pas été capables de faire reculer le gouvernement sur la réforme des retraites avec un mouvement d'ampleur sur plusieurs mois, c'est sûr que c'est pas avec une grosse manifestation nationale par année qu'on va y arriver. Donc, il y a cette question-là. Sauf que le danger qui est souvent présent, puis qu'il faut faire attention avec ça, c'est d'être paralysé par cette perspective-là, de se retrouver complètement paralysé par le fait que ça prendrait quoi tellement gros, puis on est tellement loin qu'on n'agit plus, et que donc on ne met pas en branle les choses pour que ça puisse se passer. Et c'est évident au Québec actuellement qu'il y a une difficulté à hausser le ton. Il y a des attaques très importantes depuis un an et demi, et ailleurs, ça s'est soldé par des grèves générales, des insurrections, des émeutes. Puis ici, ben, on a eu 12 occupations puis 3 manifestations nationales. Donc, on en est peut-être un peu loin. Là, ça commence à débloquer, entre autres à cause de la hausse des frais de scolarité. Mais il y a une difficulté à hausser le ton. Puis, une des choses qu'on voulait aborder avec vous, c'est nos responsabilités comme militants et comme militantes dans la question de hausser le ton. Il nous arrive souvent, comme radicaux, comme radical, de remettre la responsabilité sur les autres. C'est de la faute des directions des syndicats, si il n'y a pas de grève générale. C'est vrai. C'est la faute de la direction de la FEC et de la FER que si on négociait telle affaire, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça. Mais en même temps, c'est une dialectique, ça joue à deux. S'il n'y en a pas d'action, c'est aussi parce qu'on n'en organise pas. S'il n'y en a pas de trucs intéressants, c'est aussi parce qu'on ne fait pas l'effort pour. Puis là-dessus, on a une responsabilité d'entrer en lutte, même si on n'est pas nombreux. Puis je pense que justement, aujourd'hui, vous étiez une quarantaine au complexe G, puis vous avez fait complètement freaker, ce qui est la preuve qu'on peut, même en n'étant pas très nombreux, en choisissant des moyens d'action qui sont à notre portée, qu'on est capable de réaliser, faire effectivement être dérangeant. Puis à la limite, évidemment, on n'aura pas avec un sit-in un recul du gouvernement sur les frais de scolarité. Sauf que ça place pour la prochaine action. Parce qu'il va y avoir du monde qui va avoir fait un pas, qui va avoir participé, qui va avoir aimé ça. Il y en a peut-être aussi qui vont s'être emmerdés et qui ne vont jamais revenir, mais. Et donc, ça nous place les affaires. Et nous, on pense que en ce moment, on est vraiment dans une étape de mettre en place les conditions pour rendre possible un mouvement social d'envergure. Puis ça implique de se coaliser, ça implique de se parler, ça implique de se solidariser avec les autres, et ça implique d'organiser des actions et d'y participer, et de pas juste être la mouche du coche radicale qui dit que ça n'a pas d'allure, puis qu'on est donc poche, puis qu'on devrait donc tous se déménager en Grèce. Donc c'est ça, et là-dessus, après ça, moi je vais arrêter, puis je vais prendre une autre bière, puis pour nous discuter, fumer des cigarettes, boire de la bière, on pourrait continuer si ça vous tente. Là-dessus, il y a à Québec une coalition qui est en train de se mettre en place. C'est long et pénible, ça fait 10 mois qu'elle est en train de se mettre en place, mais elle existe, et il y a quand même des choses qui se passent, avec toutes les contradictions et les difficultés que ça a, mais notamment, il va y avoir des actions la semaine prochaine, il va y avoir surtout une le 4 avril, où vous êtes tous et toutes invités, c'est une action très symbolique, mais quand même. On va lever le budget devant les bureaux du comté de Timmins-Bolduc, donc dans Saint-Sacrement, sur Belvedere. Et en fait, on vous invite à un 4 à 7. On va manger des hot dogs en brûlant le budget. Donc, c'est un premier pas, puis ça va permettre aussi de mettre des syndicalistes avec des étudiants, avec du monde du communautaire, puis il n'y aura pas de service d'ordre. D'ailleurs, hein, ça c'est une affaire, disait le gouvernement, les patrons ont besoin des étudiants, il faut que les étudiants finissent leur session pour qu'ils puissent retourner travailler. Ben, un matin, je ne sais pas si vous avez vu la presse affaire. Vous ne lisez peut-être pas la presse affaire. Mais la session aussi a besoin de vous autres. Parce que là, ils sont en train de faire une tournée des associations étudiantes collégiales pour pouvoir avoir accès à vos membres pour syndiquer les couches tard. S'ils continuent de vous varger dessus des manifestations, il va peut-être avoir un problème. Donc, ça joue à deux. C'est ça. Donc, le 4 avril, sinon après, il y a le 1er mai. Puis, évidemment, si vous impliquez dans les mouvements sociaux puis défendre une perspective radicale, ce genre de choses qui vous intéressent, si vous avez envie de réfléchir à tout ça, ben, c'est sûr, on a un blog, on a une émission de radio et tout, mais on mange personne, on n'est pas, on n'a jamais scalpé personne, on n'a jamais enfermé personne dans une cave non plus, et éventuellement, si ça vous intéresse, vous pouvez en parler à quelqu'un qui est plus parlable que moi, Stéphane par exemple.
C'est vrai qu'il peut
parler.
Ce que Nicolas
ça veut
dire, c'est qu'on est ouvert aux
nouvelles
adhésions.
Voilà. Donc, il y a des textes, il y a un journal, il y a de la bière, il y a la page blanche qui a besoin que vous achetiez de la bière pour qu'il puisse continuer de payer le local.
Il y a des livres.
Il y a des livres et on est tous et toutes là. Et
la deuxième chose.